Frères et sœurs, les amis, j'espère tout d'abord que vous continuez à aller bien. Nous nous retrouvons pour ce cinquième dimanche après Pâques. Nous avions médité dimanche dernier sur la seconde lecture, cette belle épître de Pierre, que peut-être vous avez eu l'occasion de relire hein, pour nourrir votre vie intérieure durant la semaine. Nous nous arrêtons ce cinquième dimanche, si vous le voulez bien, en reprenant le cours de l'évangile de Saint Jean que nous méditons depuis plusieurs semaines et nous le retrouvons au chapitre 14, versets 1 à 12, qui commence, comme très souvent chez Saint Jean, où nous découvrons une théologie de l'heure, c'est-à-dire une parole, théologos, une parole sur Dieu, une parole de Dieu, une parole qui concerne Dieu. Et le premier verset que nous entendons commence par « À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père ». Cette théologie de l'heure est très importante parce qu'elle nous rappelle la présence ici et maintenant à l'heure que nous vivons, l'heure horaire que nous vivons. C'est Dieu lui-même qui nous parle. Alors, juste après nous dire à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, le discours, si on peut s'exprimer de cette manière-là, que Jésus adresse à ses disciples, se poursuit par « Ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Alors, si Jésus commence son discours par nous dire à nous aujourd'hui « Ne soyez donc pas bouleversés », c'est donc surtout en ce temps que nous vivons en ce moment, j'espère que vous n'êtes pas trop bouleversés, et que ce confinement n'a pas trop bouleversé vos vies, ou si il les a bouleversées, qu'il les a bouleversées dans le bon sens. Donc si Jésus commence par dire cela, c'est que, bien sûr, dans le contexte que vivaient ses disciples, ces derniers ne cachaient pas leur angoisse. Du reste, nous l'avons entendu au moment de l'évangile des disciples d'Emmaüs. On les comprend bien parce qu'ils étaient cernés de toutes parts par l'hostilité générale. Ils sentaient très bien que le compte à rebours, en ce qui concerne la personne de leur maître, était compté. Et cette angoisse, nous l'avons entendue dans les disciples d'Emmaüs, nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël, donc la toile de fond de ce discours, c'est toujours cette délivrance, délivrer le pays de l'occupation des Romains. Et donc, attente, bouleversement, angoisse de la part des disciples sont tout à fait compréhensibles. Alors Jésus, dans ce discours, va s'employer à leur redonner espérance, mais surtout à déplacer, j'allais dire géopolitiquement, leur espérance. Parce que leur espérance, c'était de voir un Jésus délivrant Israël comme un chef de guerre ou un chef politique, d'un Jésus qui allait prendre la tête d'une sorte de soulèvement national pour faire fuir les Romains. Et au contraire, ça peut être là la déception, ou une partie de la déception, Jésus n'a cessé de prêcher la non-violence. Et la libération que Jésus apporte se situe bien évidemment sur un tout autre plan. Jésus n'est pas là pour combler nos attentes terrestres, il est celui que tout le monde attendait, et donc la suite du discours va orienter notre réflexion sur un point très important que l'on se rappelle souvent, c'est que Jésus va faire appel à la foi. cette attitude fondamentale du peuple juif que nous trouvons très spécialement dans les psaumes. Car l'espérance ne peut s'appuyer véritablement que sur la foi. Et Jésus, dans le texte, mais aussi dans toutes ses paroles, revient très souvent sur le mot « croire ». Ne soyez donc pas bouleversés, mais vous croyez en Dieu. Alors, bien sûr, dans le contexte, c'est facile pour le contexte juif de dire « croire en Dieu » parce que c'est acquis pour eux. Mais autre chose est de croire en ce Jésus, en ce Fils de Dieu. Et donc, on voit comment, j'allais dire délicatement, mais pédagogiquement, Jésus progresse dans son discours. Et il va dire, si vous croyez en Dieu, ben croyez aussi en moi, croyez ce que je vous dis. Car celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Bon, c'est très fort comme verset. Et donc, il va prendre la comparaison que nous avons entendue. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Autrement dit, qu'il est la porte par laquelle il faut entrer. C'était l'évangile de dimanche dernier du bon pasteur. Mais pour accorder à Jésus la même foi qu'en Dieu, voilà, ça demande un saut intellectuel assez important et bien évidemment une conversion. Une fois de plus, on revient sur ce mot, une conversion profonde. Et dans la deuxième partie de son discours, si je puis dire, il y a une ligne de force qui est très nettement marquée. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et les paroles que je suis en train de vous dire, sous-entendu, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père. Donc on voit bien que dans le contexte dans lequel il s'adresse, il fait totale référence à son Père, c'est-à-dire à Dieu. Et ça, c'est acquis pour le monde juif. Hein? Et alors, il faudrait prendre du temps pour méditer longuement sur des mots, des termes qui sont très lourds de sens, positivement, mais qui transpirent, si je peux dire, la réalité de l'expérience biblique. Le verbe connaître, voir, demeurer, aller vers la parole, qui est en même temps une œuvre. L'expression « je suis » qui, vous le savez, dans l'Ancien Testament, a été la définition que Dieu lui-même a donnée à Moïse. « Je suis qui je suis » ou « qui je serai », c'est-à-dire il est l'instant présent, il est l'heure dont je parlais tout à l'heure, où Jésus nous parle réellement ce matin. Mais bien sûr, Dieu et lui sont quand même deux personnes distinctes. Et Jésus dit « Je suis le chemin ». Donc c'est très beau. C'est-à-dire qu'il est le tapis qui nous permet d'avancer vers le Père. Et ce tapis qui est relié, bien sûr, à la personne du Père. « Je suis le chemin », sous-entendu, « Je suis le chemin vers le Père ». Et personne ne va vers le Père sans passer par moi. Une autre manière de dire « je suis le chemin ou je suis la porte ». Oui, ce discours n'est pas simplement une mise en garde, il est beaucoup plus profond que cela, ni même une obligation. Il s'agit de nous faire rentrer dans le mystère profond que nous vivrons dans quelques semaines, au moment où nous fêterons le mystère de la Sainte Trinité. Et ce mystère, c'est la solidarité, le mot n'est peut-être pas très bon, l'union, la commune union profonde qu'il y a entre le Père et le Fils. Ce Fils qui est le Christ, c'est-à-dire celui qui est marqué du sceau par le Père, c'est le Christ total. J'aime beaucoup cette expression chez saint Augustin, car lorsqu'il dit c'est le Christ total, c'est toute l'humanité. Vous voyez, c'est pas simplement de comprendre qu'il y a une relation intime entre le Fils et le Père, entre le Père et le Fils, mais parce que le Fils a pris notre humanité, c'est le Christ total, c'est l'humanité tout entière. Et c'est ça qui fonde, tout au moins pour moi, une espérance très forte, puisque nous sommes à la suite de l'humanité du Christ, parce qu'il a pris cette commune humanité avec moi. Alors, entrer dans ce mystère qui est très important exige bien sûr une conversion profonde, alors que l'individualisme imprègne si souvent nos réactions, même nos communautés. Hein. Ah oui, ça, c'est toujours à lutter. Personne ne va donc vers le Père sans passer par moi. C'est une phrase à prendre très au sérieux. C'est pas simplement une indication comme une indication sur une carte géographique pour suivre le chemin qui serait le bon, mais c'est cette fois-ci être solidaire avec toute l'humanité en Jésus-Christ. Le Christ ne va pas vers le Père sans nous. Voilà, ça c'est le sens des phrases du début. Là où je suis, vous y serez vous aussi. Quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi. Et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, c'est ce que nous rappelle l'Épître aux Romains. Alors Jésus termine par une promesse solennelle qui est à bien comprendre. Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Alors les œuvres, c'est un terme que nous retrouvons aussi, qui ne veut pas dire simplement les œuvres que le Christ, durant sa vie humaine, qu'il a vécu parmi nous, à savoir donc ses miracles. C'est pas seulement ça qui est à comprendre dans le mot œuvre, mais dans l'Ancien Testament, le mot œuvre, en parlant de Dieu, est toujours un rappel de la grande œuvre de Dieu, c'est-à-dire sa libération. Donc, vous voyez, combien un terme peut être riche et ne doit pas être enfermé dans nos petites visions humaines. Quand on dit « est-ce que tu as bien œuvré ? Est-ce que tu as fait ton, est-ce que tu as accompli ton œuvre ?» Oui, j'espère qu'on a accompli notre œuvre, c'est-à-dire ce à quoi nous sommes appelés, à faire ceci ou faire cela, bien entendu. Mais au sens biblique du terme, le mot « œuvre », c'est l'œuvre de Dieu d'abord à laquelle je suis participant et à laquelle il m'invite à participer. C'est l'œuvre de sa libération, la libération du peuple. Et donc dire, ou nous redire, que nous sommes associés totalement à l'œuvre d'entreprise par Dieu pour libérer l'humanité de toutes sortes d'esclavages. Alors je crois que dans ce temps que nous vivons de confinement, nous avons à nous libérer, pas tellement du confinement, mais à nous libérer de tout ce que ce confinement a transporté d'idéologies, de mensonges, de contradictions qui nous ont perturbés. Et donc nous avons à nous libérer, mais à nous libérer de manière chrétienne, c'est-à-dire à suivre d'abord et avant tout notre cœur, notre conscience, notre foi, qui est habitée par notre cœur et notre conscience, bien sûr, pour aller de l'avant et avancer en faisant corps avec l'humanité du Christ. Il s'est fait homme pour que l'homme, nous dira saint Irénée, devienne Dieu. Amen.